D'accord, bonjour. J'espère que le déjeuner est bon. Donc, merci beaucoup, Sophie, Michel, Gilles, d'avoir organisé cette journée, m'avoir invité. Comme Sophie a déjà dit, moi, je suis enseignant-chercheur. Elle a dit que je fais partie du laboratoire S2HEP, des sciences, society, historicité, enseignement et pratique. On est plusieurs membres de ce laboratoire. Ça réunit l'ENS, les gens de l'IFE qui font maintenant partie de l'ENS et Lyon 1. Je mets plein de logos. Je crois que j'aurais pu mettre plus de logos. Ça, c'est l'avantage avec l'université moderne. Chaque jour, il y a un nouveau logo qu'on peut ajouter à son diaporama. Moi, je suis chercheur, je suis en histoire des sciences. J'ai été formé d'abord en chimie et philosophie des sciences. Je vais revenir à la fin à mes débuts en chimie. Pour moi, c'était une discipline bien définie, facile à identifier quand j'étais étudiant. Et puis ensuite, j'ai fait un doctorat en histoire des sciences et aux États-Unis. Je suis venu en France et maintenant. Ma thèse était sur les relations entre la pharmacie et la chimie au XVIIIe siècle. Il y a un livre mais c'est très difficile à obtenir maintenant. Vous pouvez tenter sur Amazon ou ailleurs, mais c'est difficile à trouver. C'est pas parce que c'est tellement bien vendu, mais c'est parce qu'il y avait très peu d'exemples imprimés. En ce moment, moi, j'anime un groupe STHEP, mais aussi au niveau de la région, et on a des collègues suisses qui viennent travailler avec nous aussi autour des questions des disciplines scientifiques. On est entré dans la deuxième année de ce projet, on discute la question des disciplines scientifiques. Qui de mieux d'inviter de parler des disciplines scientifiques? Donc, dans ce groupe discipline scientifique, on a quand même posé la question au début. Qu'est-ce qu'une discipline scientifique? On a passé relativement peu de temps d'essayer de trouver une définition d'une discipline scientifique parce qu'on s'est rendu compte assez vite que on n'avait pas trouvé une définition qui convenait. On n'a pas perdu de ça. L'intelligence d'un chercheur, c'est pas perdre le temps. Essayons de trouver quelque chose qu'on sait des débuts qu'on va pas trouver. J'ai pas de définition de ce que c'est une discipline, discipline scientifique ou autre à vous proposer. Mais par contre, il y a plein de définitions en pratique qu'on peut voir. On n'est pas obligé de regarder très loin pour voir que la présence des disciplines sans forcément avoir une définition formelle de ce qui constitue une discipline. Pour l'enseignant-chercheur, l'institut qui joue un rôle très important en termes de la définition de son identité disciplinaire, c'est le CNU. Vous connaissez pas forcément cette institution, c'est le CNU, Conseil national des universités, l'agence ou l'autorité qui statue sur qui peut candidater pour des postes d'enseignants-chercheurs et professeurs dans les universités. Avant de candidater pour un poste, il faut être approuvé par cette institution, être qualifié. Et le CNU est divisé. C'est évidemment parce que c'est la France, c'est pas aussi simple que ça, parce que CNU, c'est pour les universitaires, mais il y a aussi un pendant CNRS qui est également divisé, mais pas dans exactement la même division disciplinaire. Il y a une différence entre les sections CNRS et les sections CNU. Vous pouvez aller voir. Je vais mettre sur le prochain. La prochaine diapositive, je vais mettre l'adresse de ce site si vous voulez voir toutes les sections du CNU. J'ai mis quelques sections scientifiques. Il y a deux sections mathématiques appliquées. Il y a une section relativement neuve qui s'est greffée, donc côté mathématique, le 5B. Donc, évidemment, il n'y a pas de hiérarchie entre A et B. Donc, donc 5B, c'est informatique. Et puis, donc, voilà, vous voyez, donc, la physique et la chimie des matières. Donc, les disciplines aussi, disciplines chimiques dans le groupe 7, chimie théorique, chimie organique, chimie des matériaux. Donc, ceux qui ont fait des études de chimie à l'université, vous voyez un peu donc le découpage que vous voyez donc également dans les enseignements qui sont proposés donc à la faculté. Donc voilà d'autres exemples, mais vous pouvez donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de CPCNU. Donc je crois que oui, donc ça c'est le conseil des présidents de CNU. Vous pouvez voir donc une liste de toutes les sections et donc, pourquoi je présente ça? Parce que j'ai dit au début, donc, on n'a pas cherché à définir, donc, la discipline, mais quand même, les disciplines scientifiques, comme d'autres disciplines. C'est bon? Moi aussi. Non, mais c'est mieux comme ambiance, ça fait. Ah, d'accord. Bon. Donc, voilà, donc, on peut pas. Donc, comme j'ai dit, oui, donc on n'a pas cherché à définir donc ce que c'était une discipline, mais on peut regarder donc dans plusieurs institutions. Donc évidemment, on va revenir donc avec la présentation de Marilyn où on voit donc les disciplines donc qu'on passe donc de l'université à l'école, mais c'est donc on n'est pas obligé de regarder très loin, de voir la présence des disciplines, même si donc je crois que ce serait très difficile à trouver donc une définition consensuelle parce que donc on peut proposer des définitions mais les gens vont dire mais ça colle pas avec ça. Donc voilà, moi je suis dans une section de parce que je suis aussi membre de CNU, donc c'est comme ça j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement du monde de recherche et de donc l'enseignement supérieur. En France, c'est en étant un membre du CNU, donc la section 72, c'est ma section qui est épistémologie. Donc voilà, il y a une identification forte. Vous voyez, c'est ma section, je ne reconnais pas les autres. Mais épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Donc moi, j'ai fait une thèse en histoire des sciences, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'instance de discipline disciplinaire. Donc c'est un truc particulièrement français. Donc je ne connais pas d'autres pays où il y a ces instances. Donc en fait, c'est quelque chose qui me frappe que en fait les disciplines sont très présentes donc dans la vie d'un chercheur français donc de manière plus évidente. Donc c'est important dans les autres pays, mais c'est très évident avec ces structures comme le CNU en France. Donc moi je suis en 72, comme j'ai déjà dit j'ai écrit une thèse donc sur les relations entre la chimie et la pharmacie donc au 18e siècle, et là j'ai développé donc une analyse disciplinaire donc ça pour ceux qui connaissent un peu sans doute les chimistes qui connaissent donc la révolution chimique, vous voyez que c'est la période de la révolution chimique, donc vous avez peut-être même enseigné donc autour de Lavoisier, vous connaissez au moins Lavoisier qui était censé avoir dit que rien se crée, rien se perdre, donc vous connaissez. Apparemment, il l'a jamais dit, mais voilà, vous pouvez continuer à dire qu'il l'a dit parce que c'est un grand français. Et donc, il l'a jamais dit. Et donc, ça, il y a un très bon article sur ça. Comme c'était jamais dit que la République n'a pas besoin des savants, c'est tous les deux des mythes importants du 19e siècle pour essayer de construire ou reconstruire donc le mythe fondateur de Lavoisier. Mais je digresse. Voilà, donc moi j'ai fait une thèse sur cette question et dans cette thèse, moi j'ai élaboré une analyse des disciplines, donc l'origine de la pharmacie, de la chimie moderne en termes d'une présentation ou donc un positionnement disciplinaire nouveau donc pendant cette période-là. Mais je ne vais pas parler de ça, mais j'ai élaboré là-dedans, donc où j'ai appliqué une théorie qui venait du nationalisme pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et vous allez voir donc la pertinence en ce qui suit, ou vous n'allez pas le voir. Et donc, si vous ne voyez pas, il y a un problème. Donc, il y a un problème de ma part que je n'ai pas rendu ça assez clair. Donc voilà, si vous regardez la page des sections 72, donc c'est intéressant parce que la section 72, un peu à la différence des autres sections, c'est une section qui ramasse donc épistémologie, donc c'est la philosophie des sciences. Pour moi, je viens d'Angleterre et des États-Unis. Moi, j'ai pas connu l'épistémologie à la française avant d'arriver en France. Donc, j'ai lu un peu de bachelor. Donc, j'avais une idée. Mais donc, en France, il y a cette discipline épistémologie qui est pour moi la philosophie des sciences. Et donc, histoire des sciences et des techniques. Et voilà. Donc, ça, c'est le titre de la section. Mais dans la rubrique de la page de section 72, ils présentent donc des sections voisines. Donc, le 8, langue, 17, philosophie, 19, sociologie, etc., etc. Voilà, il dit que potentiellement toutes les sections CNU peuvent être donc impliquées, dont toutes les sections scientifiques peuvent être impliquées, donc dans le 72, soit comme voisin, voisine, soit comme membre à part entière. Donc il y a quand même pas mal de gens formés comme des scientifiques qui arrivent dans la 72e section. Donc voilà, c'était pas pour... Donc mon but ici, c'est pas de présenter ou faire la propagande pour ou contre le 72, c'est pour réfléchir donc à la question de ce que c'est une discipline. Et comme j'ai dit dans mon livre sur les relations entre la pharmacie et la discipline, moi j'ai explicitement pris une approche théorique qui était prise des recherches sur le nationalisme donc dans les années 80. Donc, parce que la question se pose donc autour des disciplines. Donc voilà, on a cette liste des disciplines donc dans CNU, mais on peut trouver des disciplines ailleurs. Et donc on pose la question, mais c'est quoi la nature des disciplines? Plutôt que définir ce que c'est une discipline, on peut poser la question plus générale. Mais qu'est-ce que c'est une discipline donc globalement? À quoi ça sert? Donc ça fonctionne à quoi faire? Et donc en général, les gens vont dire que les disciplines servent à faire un découpage. Ouais. Donc c'est le parallèle qui est clair avec les nations, donc des pays. Les pays sont un découpage, la géographie qui, donc en Europe par exemple, donc il y a une géographie peut-être donnée, peut-être pas, je vais pas prononcer là-dessus. Et puis donc il y a des nations, donc des pays qui se constituent là-dedans. Et vous voyez qu'il y a un parallèle avec les disciplines, donc si je vais trop vite, qu'il y a quand même cette idée que les disciplines, même si on peut pas définir exactement ce que c'est une discipline, les disciplines servent quand même à découper donc un terrain, peut-être un terrain donné. Donc les connaissances sont divisées donc en disciplines, et donc on peut, comment, pourquoi, c'est le genre de question qu'on peut poser. Donc si on passe donc à la géographie, pour faire une métaphore, un parallèle, on voit bien que un territoire comme l'Europe est découpé en nations. Et donc voilà, je fais une illustration d'un pays que vous connaissez tous, donc la Suisse. Donc voilà, dans mes... Parce que évidemment, vous regardez tous la France parce que vous êtes français. Mais moi, je suis anglais, et donc c'est... Bon, voilà, on va prendre la Suisse parce que c'est neutre. Et vous voyez que... Donc, je reviens à la diapositive précédente pour vous montrer que la Suisse... Donc, à la limite, la France, on peut dire que voilà, donc la mer qui fait donc une grande partie des frontières, constitue une grande partie des frontières de la France, au moins la France terrestre. Donc, évidemment, il y a le problème des frontières donc maritimes. Donc, il y a les bordures qui sont données par la nature. Mais Suisse, vous voyez que c'est donc complètement donc entouré d'autres pays. Et donc j'ai parlé avant des voisines donc de 72. Donc dans les études des pays, des nations, des nationalismes, donc les voisins, le voisinage donc joue un rôle très important. Donc, et quand vous regardez un plan comme ça, une carte comme ça de la Suisse, il y a deux moyens de regarder la Suisse. Donc on peut regarder comme une entité positive, Oui, qu'il y a la Suisse qui a une forme particulière, donc c'est comme ça que vous apprenez donc la France dans son forme d'hexagone, donc comme quelque chose qui positif qui est donné. Mais on peut aussi donc arriver à la Suisse en enlevant la Suisse et en regardant donc tous les pays qui la voisinent. Donc en faisant le tour de ce qui manque de la France, donc l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Donc le morceau qui manque, c'est la Suisse au milieu. Donc c'est une manière de regarder ça. Donc ça, c'est en lien avec ce que j'ai déjà. Donc j'essaie de manière subtile et intelligente, pour montrer que je suis un chercheur, j'essaie de mettre en place quelques thèmes clés qui sont donc les thèmes de difficulté, donc de définition, mais présence forte. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez frappante, notamment en France, mais ailleurs aussi. En France, il y a des structures qui sont un peu exceptionnelles, mais quand même, les disciplines sont très présentes. Donc, dans la vie des universitaires, j'imagine aussi, c'est quelque chose que vous allez discuter et vous allez débattre. Les disciplines sont aussi très présentes, donc, dans la vie, donc, des écoles. Donc à partir de quel niveau? Je crois que c'est la question que Marilyn va poser, ou une des questions, parce qu'elle est encore plus subtile et intelligente que moi. Donc voilà quelque chose qui est intéressant, c'est donc ça, donc sur la réflexion de donc les parallèles qu'on peut faire avec des nations, des pays, c'est que quand donc la question que donc ça c'est je prévois ce que je vais dire après, c'est et on va poser la question, est-ce que donc le découpage, parce que c'est question de découpage, est quelque chose de naturel ou artificiel? Et donc quand on prend un pays comme la France, on peut donc dire que voilà les frontières, soit les montagnes, soit les mers, donc constituent des frontières naturelles, et les autres frontières donc sont artificielles. Mais quand on a des frontières en place, donc dans un pays comme la France ou autre, ça a une influence importante donc dans la mise en place donc des structures qui suivent. Donc si vous regardez, ça c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez le temps de le faire, mais si vous avez le temps, vous pouvez regarder des plans des autoroutes des pays différents, qu'en fait il y a beaucoup de donc France est un pays très grand, donc il y a beaucoup d'investissements pour faire les autoroutes, mais il y a beaucoup de dédoublements, notamment donc aux frontières. Donc moi je viens pas de Strasbourg, je viens de Strasbourg aujourd'hui, mais je suis pas strasbourgeois d'origine, c'est pas l'accent alsacien que vous détectez. Mais vous voyez donc les routes qui vont de Strasbourg à Mulhouse, donc en fait il y a un dédoublement de l'autre côté de la frontière, donc il y a quand même cet investissement donc surplus qui renforce donc des frontières que donc a priori les frontières, donc on peut dire que c'est le Rhin qui est la frontière naturelle donc entre l'Allemagne et la France. Mais ceux qui connaissent donc un peu d'histoire, vous savez que c'est-à-dire il n'y a pas trop longtemps quand le Rhin était plus donc la frontière donc entre 1870 et 1918, comme l'Alsace-Moselle faisait partie de l'Allemagne. Et donc la géographie de la France était un peu, c'était en fait c'était mieux parce que c'était plus hexagonal. Donc ça va. Si vous avez des oh, non, si on a des problèmes comme des Chypriotes, on peut recéder à Alsace-Lorraine. Enfin. Mais vous voyez que quand vous regardez donc des devenirs donc des pays, donc vous commencez à poser la question, donc il y a toujours donc des discours sur le naturel, ou donc l'inné, ou l'évidence d'un pays, donc notamment donc sur les discours nationalistes. Donc ça tourne autour soit du sang, des races, des langues. Donc il y a toujours des critères qui sont cherchés par des gens pour vous convaincre que des pays sont quelque chose de naturel. Donc je parle comme ça des pays, mais j'imagine c'est pas trop difficile pour vous de déjà faire des parallèles avec des disciplines, qu'il y a des gens qui ont des arguments parallèles pour dire qu'une discipline est une naturelle, qui sont un peu le parallèle donc dire, ah, ils ne vont pas dire que vous êtes donc un pur physicien et donc il faut éliminer des non-physiciens de la physique. Ou, ouais, mais vous voyez, il y a quand même des parallèles clairs entre des argumentations autour de la nature de la nation, des pays, et la nature et la nation du, de la discipline. Ouais. Et donc, même chose, si quelqu'un vous demande à définir ce que c'est un pays, donc si vous dites que la France est définie par donc qu'on croit donc dans la liberté, l'égalité, la fraternité, donc il y a moitié du reste du monde qui sont français et moitié des Français qui sont pas français, donc c'est mieux de ne pas entrer. Vous voyez ce que je veux dire, que c'est pas forcément une bonne idée d'essayer de définir ces choses, mais les trucs deviennent évidents dans la pratique, donc tout le monde sait ce que c'est la France, qui sont des Français, donc et quand c'est à cette ce niveau de tacite, on peut se comprendre, mais aussi donc il y a plein de place pour donc une mécompréhension aussi, hein, donc un manque de communication, que tout le monde pense qu'il a la même idée de ce que c'est la France, qui sont les Français, mais c'est pas forcément la même chose. Donc même chose avec avec les disciplines. Donc voilà, notamment vu des sous-disciplines. D'accord. Donc, comment peut-on penser? Donc, je vais revenir donc à la fin à ce genre de parallèle qu'on peut on peut amener donc des nations de nationalisme pour réfléchir sur des nations, les natures des disciplines, des frontières entre disciplines. Comment peut-on penser les disciplines? Donc, parce que je suis membre d'une section qui a épistémologie dans le titre, donc voilà, je vais partir sur un volet plus philosophique, donc philosophie des sciences, pour vous montrer que je suis digne d'être membre de cette section 72. Donc je vais parler un peu de comment peut-on penser les disciplines, et deux grandes approches, que maintenant vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez penser comment peut-on appliquer ces mêmes approches également à penser des nations ou d'autres groupements. Éventuellement. Donc, on peut penser les disciplines de manière internaliste ou de manière externaliste. Donc, ça, c'est pour reprendre donc les débats qu'il y avait donc dans la philosophie des sciences. Donc, depuis les années 50 ou les années 60, donc un grand débat donc à l'intérieur de la philosophie des sciences, donc internalisme contre externalisme, que les vrais donc des modernes parmi nous, les philosophes des sciences, on est censé avoir dépassé ce départ, mais je vais vous présenter au moins les idées principales. Si je vais trop vite, vous pouvez arrêter, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser la question. Donc, j'aime bien les petites îlots, c'est bon comme construction, mais avec moi ici, ça va être plus difficile de poser une question, mais voilà. Donc internaliste. Donc si on prend donc une approche internaliste aux disciplines, on va donc présenter l'argument que les disciplines reflètent quelque chose qui existe vraiment dans le monde. Oui, donc ça en général réfère donc à un argument philosophique autour de la nature. Donc je parle ici des disciplines scientifiques, des natures des sciences, et l'idée que le but des sciences est découvrir donc un monde qui existe indépendamment de nous, indépendamment des êtres humains, donc à l'extérieur, et les sciences cherchent à découvrir donc la vérité ou donc la réalité ou donc des règles de fonctionnement de ce monde. Donc, si on est internaliste, on va croire que le monde doit être découpé. Donc, l'expression des Anglais, c'est cut nature at the joints, mais je ne sais pas exactement comment dire ça en français, mais c'est donc quand on parle de réalisme, donc cette idée qu'on peut connaître le monde comme il est, on dit, donc les philosophes anglais disent qu'il y a cette idée qu'on peut couper la nature donc aux articulations, donc parce que c'est pas ceux entre vous qui ont eu donc une vie intérieure ou donc un miton comme boucher, vous savez que c'est beaucoup plus facile à couper donc la jambe ou d'un animal où il y a des articulations. Ouais, c'est moins difficile. Et donc l'image, c'est que voilà, donc le monde est articulé, donc il y a une forme du monde donc qu'on doit approcher ou aborder, et donc la méthode scientifique, c'est la meilleure façon de le faire. Et donc et en coupant donc la nature donc aux articulations, il y aura moins de résistance, donc on va éventuellement, donc en faisant des bons, on va savoir qu'on fait des bons découpages parce que ça va marcher, parce qu'en fait c'est en adéquation avec la nature donc du monde comme il existe. Mais comme on voit donc déjà avec une vache, j'ai laissé tomber par respect des Anglais là, ma diapositive du cheval, donc ça c'est un mouton en haut et une vache en bas. Donc voilà, on voit que déjà les Français, les Britanniques et les Américains coupent donc une vache différemment. Mais mais quand même, donc c'est clair qu'il y a beaucoup de possibilités quand on découpe donc un animal, mais on voit quand même qu'il y a quelques coupes, donc notamment sur des jambes qui sont a priori qui sont en commun entre les Français, les Anglais, les Américains, parce que oui, donc autour des jambes, parce qu'il y a des articulations et on coupe. D'accord, on peut imaginer, donc si on prend donc des grands classiques des disciplines scientifiques, la physique, la chimie et la biologie, on peut imaginer que les disciplines existent parce qu'il y a des zones de connaissances, des zones de savoir qui sont données par la nature. Donc il y a la transformation de la matière, donc il y a la matière qui se transforme dans les réactions chimiques, et ça c'est donc le domaine donc des chimistes. Il y a les phénomènes de vivants, donc des choses qui se reproduisent, et ça donc tout ce qui est en lien avec le vivant, c'est donc les sciences de la vie ou donc la biologie. Et puis donc la connaissance de la matière, pas en transformation, mais dans ses déplacements et sa constitution. Donc c'est la physique. C'est quand même pas complètement déraisonnable de proposer que les disciplines peuvent éventuellement donc dériver de ces différences de nature qui existent donc dans le monde. Et donc ça c'était donc l'approche internaliste par domaine de connaissance, mais on peut aussi donc avoir une approche plutôt internaliste autour des pratiques, il y a des manières d'interroger ou donc traiter le monde qui sont distinctes et différenciables, qui constituent donc les disciplines, qu'en fait c'est pas forcément donc des objets contraints, mais la manière de le faire. Donc là, dans cette lecture, on peut explorer donc cette lecture à partir des paradigmes. Donc vous avez donc sans doute entendu parler de paradigmes, changement. Maintenant tout le monde change des paradigmes, donc même des hommes et des femmes politiques ils changent des paradigmes. Mais cette idée de paradigme, changement de paradigme, ça vient de la structure de révolution scientifique de Thomas Kuhn, qui a donc plus que 50 ans maintenant. Mais là, il a proposé donc c'est la structure de la révolution scientifique. Il a proposé une grande vision de comment fonctionnent des sciences par donc la science normale et des révolutions. Donc si j'ai pas le temps de faire, j'ai un super cours. C'est très bien enseigné. Donc ça c'est la grande avantage de Kuhn, je suis sûr, que c'est pour ça que ça a vendu tellement bien, parce que c'est bien apprendre, bien enseigner. Donc, donc l'idée, c'est que la grande majorité des sciences, c'est ce qu'il appelle normal science, donc la science normale, qui est la science faite à l'intérieur d'un paradigme. Et donc, de temps en temps, il y a une révolution, donc ça, c'est le truc plus sexy que tout le monde aime. Mais donc la majorité de la science, donc plus 90% de l'histoire de la science, c'est la science normale et où les scientifiques travaillent à l'intérieur des paradigmes. Et donc le paradigme, c'est ce qu'on apprend dans ces formations, qui est le mode qui est très disciplinaire. Et pour des généticiens, donc c'est la génétique, pour les physiciens, donc comment appliquer donc la physique mathématique ou d'autres, ça dépend donc de la sous-discipline, mais on peut penser donc les paradigmes en termes de discipline, et à ce moment-là on peut imaginer donc une réflexion où la discipline est définie par le paradigme. Et c'est quoi un paradigme si on va imaginer que le paradigme peut éventuellement servir à définir donc une discipline? Donc on peut demander, donc Kuhn n'est pas très précis là-dessus, donc c'est une critique qui a été faite tout de suite sur le livre, qu'en fait il avait défini donc la science normale, la majorité des sciences autour du paradigme sont vraiment définies. Donc le paradigme, c'est vraiment le concept central, mais il explique pas très bien exactement ce que c'est un paradigme. Il donne des exemples, mais finalement des exemples assez hétérogènes, donc des révolutions, la révolution chimique, la révolution donc copernicienne, donc des révolutions assez différentes. Et donc on est censé sortir avec une idée de ce que c'est un paradigme. Il dit, c'est l'ensemble des valeurs et des techniques que partage un groupe scientifique. Donc ça c'est le plus proche qu'il arrive à faire, donner une définition dans son livre. C'est intéressant comme point d'entrée, donc à interroger donc ce que c'est une discipline. Si on imagine qu'une discipline c'est défini autour des paradigmes et une discipline va être définie autour des valeurs et des techniques qui sont partagées par des membres d'un groupe scientifique. Donc il y a la question d'échelle qui est soulevée par cette définition et par les exemples, parce que la révolution copernicienne, c'était une révolution importante. Il y a la révolution scientifique. Est-ce que la révolution, donc le début de la science moderne, était donc un changement de paradigme? À ce moment-là, c'était vraiment un paradigme beaucoup plus important que la révolution copernicienne, qui était plus important que la révolution chimique. Donc avec cette idée de valeur des techniques et valeurs que partage un groupe scientifique, mais vous pouvez aussi si vous réfléchissez donc à ce que vous partagez avec vos collègues en général, vous avez quand même des valeurs et des techniques d'évaluation ou d'éducation nationale, je crois que c'est égalité, fraternité, c'est toujours écrit donc sur les écoles, donc c'est facile à retenir chaque fois qu'on revient, mais quand même vous avez des valeurs en commun avec l'ensemble de vos collègues, et puis vous avez des valeurs en commun avec des gens de même matière. Mais vous avez aussi donc des trucs sans doute à échelle moyenne entre les deux aussi. Donc peut-être, il y a tous les scientifiques qui lisent donc Science et Avenir, et tous les littéraires qui lisent, c'est quoi l'équivalent? Moi je suis scientifique, donc évidemment je ne lis pas, mais vous voyez donc c'est donc l'ouverture de cette idée de paradigme ou donc ça donne donc matière à penser sur la nature des disciplines et ce qui peut ressembler donc à des gens. Oui, d'accord. Donc avec cette échelle, donc on pose aussi la question de la spécialisation. Donc pour revenir donc au niveau notamment de la recherche, un des grands enjeux de la recherche, c'est les sous-disciplines et l'interdisciplinarité. Et Et donc la différenciation, donc il y a quand même pas mal de littérature, notamment donc en sociologie, autour de logique de disciplinisation, donc qu'il y a un scientifique qui veut vraiment donc marquer son territoire, c'est donc quelqu'un qui va essayer d'établir donc déjà une sous-discipline, et éventuellement donc dans l'espoir que sous-discipline va devenir donc une discipline à part entière, avec éventuellement sa propre section donc dans CNU. Il y avait un cas l'année dernière autour de la criminologie qui est devenue donc, je sais pas si vous avez peut-être suivi ça ou pas, mais la criminologie est devenue donc section de CNU l'année dernière sous Sarkozy, et puis c'était retiré par Hollande dès qu'il est arrivé. Donc voilà, il y a des gens, des histoires qui intéressent beaucoup des sociologues, parce qu'il y a beaucoup de politique là-dedans, donc il y a plein. C'est intéressant. Donc il y a donc des avantages et des désavantages de différenciation. Donc en termes de taille notamment, que quand on forme des sous-disciplines de plus en plus petites, donc évidemment on arrive à un moment d'un groupe de chercheurs qui est trop petit pour être donc pour peser donc donc, mais il y a des avantages donc de sous-spécialisation. Je vais aller vite. Donc je vais terminer parce que je dois avoir 7 minutes qui restent maintenant autour de cette question, parce que je crois que vous avez déjà parlé donc au niveau c'est donc quand pour revenir donc aux métaphores, j'ai dit je crois qu'au début que j'allais revenir, donc c'est quand même pas mal ça que j'ai savais déjà ce que j'avais à dire. Donc parce que pas forcément, j'avais pas forcément le temps, mais voilà. Vous voyez donc dans les nations, donc autour des nations, donc la question de frontières est très importante. Donc j'ai déjà dit que pour un pays comme la Suisse, on peut le regarder comme une entité positive, que la Suisse est là, mais on peut aussi voir comme une entité négative, donc qu'en fait c'est entouré par d'autres pays qui aimeraient bien reprendre la Suisse. Donc et il faut quand même affirmer donc l'existence de la Suisse en défendant donc et définit, donc c'est pour ça que la géographie était tellement, la cartographie notamment était tellement importante. Donc il y a un débat non autour de récemment entre il y a un petit débat entre la France et l'Italie autour de Mont Blanc ou quelque chose, non, est-ce que ça appartient à la France ou l'Italie, voilà. Donc je sais pas, donc peut-être on est prêt à aller donc à la guerre pour conquérir donc Mont Blanc, mais voilà, c'est quelque chose qui est très important, et pour les disciplines aussi, précisément pour peut-être donc Mont Blanc, c'est pas très important en lui-même, mais que si on commence à céder le territoire, donc on sait pas où ça va finir, et c'est la même chose pour les disciplines scientifiques, même si donc il y avait une histoire intéressante de l'introduction de l'informatique dans CNU, que même si en tant que mathématicien, on n'a rien contre les informaticiens, ils sont sympas, mais si on laisse les informaticiens constituer leur propre discipline, est-ce qu'ils vont donc miner la mathématique comme discipline en prenant des mathématiciens, les convertant en informaticiens? Donc vous voyez, il y a toujours des enjeux très importants autour des frontières. Et il y avait donc il y a plusieurs donc études donc ça date des années 80-90 du siècle dernier, donc il y avait donc quand l'histoire et la philosophie des sciences est devenue plus sociologique, donc dans cette période-là il y avait des chercheurs qui ont regardé donc cette question comment les scientifiques établissent donc des frontières, comment ils établissent des frontières entre les différentes donc disciplines. Et puis ils ont introduit aussi donc ce concept qui est peut-être utile et intéressant pour vous, l'idée des objets frontières, donc des boundary objects, qui étaient beaucoup discutés ou utilisés dans les années 90 notamment, comme un objet qui peut fonctionner, qui peut servir donc en passant de discipline en discipline, que c'est quelque chose, un concept, c'est pas ou un outil, donc quelque chose de concret qui peut passer de discipline à discipline, qui sert à la fois comme objet d'échange, mais aussi qui sert aussi donc à renforcer donc les disciplines. Donc à la fois c'est un peu à double tranchant, parce que Donc à la fois, ça sert donc à faire des échanges autour d'un objet, mais ça aussi, ça peut aussi servir de renforcer donc les frontières entre les disciplines. Donc je donne un exemple, mais que j'ai pas élaboré, mais les gènes, par exemple. La conception de ce que c'est un gène, c'est assez différente donc dans les disciplines donc ou les sous-disciplines de la biologie. Donc pour les biologistes moléculaires, donc ce que c'est un gène, c'est différent conceptuellement de ce que c'est pour les biologistes des populations que même donc dans les détails donc matériels de ce que c'est un gène, ils sont pas toujours d'accord, mais sur le concept de fonctionnement et le rôle d'un gène, ils ont des visions assez différentes. Mais voilà, c'est un exemple. Et oui, donc je conclue. J'ai quelques minutes ou 4 ou 5 minutes. Alors je vais recommencer. Non, mais je vais. Donc ça c'est un exemple. Je vais vous donner le diaporama après. Ça c'est en fait pour donner une référence sur la biochimie. C'est un exemple de quelqu'un qui a travaillé sur la naissance d'une discipline. Donc, en fait, je savais pas où le mettre, mais c'est un exemple très intéressant. Lui, donc Robert Kohler, il prend vous connaissez peut-être le nom Kohler parce qu'il est héritier d'une grande fortune sur la. Je ne sais pas si vous êtes allé aux toilettes aux États-Unis. Vous avez peut-être vu le nom Cola sur les toilettes. Non, enfin. Mais Robert Kohler, il a écrit ce livre donc sur les origines de la biochimie. Et lui, il prend vraiment donc une position externaliste. Il a dit qu'au début, il pensait que la biochimie avait sa propre logique, mais finalement, il est arrivé à la conclusion que c'était vraiment créé pour des raisons politiques, notamment de demande d'enseignement avec les réformes de l'éducation. Dans la médecine, donc une réforme, donc dans l'éducation médicale, ils ont avant la grande réforme, donc les grandes réformes début du XXe siècle aux États-Unis, ils enseignaient, ils introduisaient donc la chimie donc dans les facultés de médecine, mais après les réformes, il fallait déjà connaître la chimie pour entrer dans la faculté. Il a dit c'est à ce moment-là, à l'intérieur des facultés de médecine, ils ont développé donc un autre discipline qui était la biochimie, qui était ce qui était donc étudié et enseigné donc dans les facultés de médecine. D'accord. Donc je conclue sur les disciplines et les parallèles entre les nations, parce qu'un autre auteur, donc Mary Jo Nye, qui a étudié donc des sciences dans les provinces de France, donc à l'extérieur de Paris, et elle a essayé d'identifier donc la montée des disciplines au 19e siècle, notamment au début du 20e, et elle propose donc 6 éléments pour bien identifier donc une discipline qu'elle-même avait emprunté donc des études sur des nations. Et donc je mets donc elle dit qu'il faut des rites codifiés. Donc moi j'ai ajouté le langage technique. Je crois que c'est quelque chose d'important qu'on trouve donc dans les disciplines. Donc rituals, elle dit. Donc littérature. Donc ça c'est important qu'il y ait une littérature partagée, qu'à l'intérieur d'une discipline ou même une sous-discipline, on lit tous les mêmes revues. Qu'il y a une littérature qui est un facteur très fort donc dans l'établissement et l'identification et la continuation d'une discipline, que tout le monde lit les mêmes choses. Donc une patrie, donc elle parle d'une patrie, mais donc un lieu physique, donc je crois que c'est moins important peut-être maintenant que c'était au 19e siècle, mais c'était important d'avoir donc une société ou donc un lieu de où on se rencontrait. Reconnaissance l'extérieur, donc elle fait référence à cette question de voisinage. En fait, c'est pas assez de se reconnaître soi-même comme membre d'une discipline. C'est très important qu'on ait une reconnaissance des autres disciplines, mais aussi donc éventuellement institutionnelle. Mais c'est clair que les deux sont liés. Généalogie. Donc pour ça, je reviens donc à mon histoire de Lavoisier. Donc les seuls qui connaissent l'histoire de Lavoisier dans cette salle sont les profs de chimie, parce que et pour chaque discipline, il y a une généalogie. Donc quand vous faites, moi je suis historien des sciences, donc je vais faire des remarques donc méchantes parce que que quand vous faites l'histoire des sciences, en fait, vous faites la généalogie de votre discipline et pas la vraie histoire des sciences. Mais voilà, ceux qui veulent se reformer, donc venez me voir après, je vais vous former en histoire des sciences. Donc ça, c'est pour... Je prêche pour l'Église, là, d'histoire des sciences. Donc, des valeurs scientifiques partagées. Donc, on revient un peu au Kuhn. Et moi, j'ai ajouté, donc, ça, elle avait 6 points. Moi, j'ai ajouté aussi des outils. Donc, je crois que c'est aussi des pratiques et des outils. C'est pas seulement des valeurs. C'est aussi outils mathématiques, donc outils dans son sens plus large, pas forcément des trucs concrets, mais il y a quand même un partage à la fois de valeurs, de manière d'aborder des problèmes ou des problématiques, mais aussi des outils qu'on utilise. Et sans doute, c'est là qui est le plus visible pour vous quand vous essayez de travailler. Donc peut-être le langage technique, je ne sais pas si vous avez confronté le problème que vous ne comprenez pas ce que vos collègues disent, parce qu'ils utilisent donc le langage de leur discipline qui est incompréhensible pour les externes. D'accord, donc voilà, donc je conclue. Donc Sophie, j'ai quelques minutes. Non, mais je dis, j'avais que deux. J'allais dire que les institutions sont quand même très structurantes, notamment en France, mais partout, en fait, au niveau donc, de l'université, parce que j'allais. C'est à la fin de vous accrocher en disant que voilà, donc vous avez eu cette expérience à l'université, parce qu'en fait l'université est très structurée autour des disciplines. Donc aujourd'hui ils essaient de sortir un peu de ça, mais ils trouvent énormes difficultés parce que des disciplines, quand elles fonctionnent, elles se renforcent. Donc c'est assez difficile à faire l'interdisciplinarité, parce qu'en fait il y a deux logiques qui travaillent les uns contre les autres. Donc c'est comme les deux mains qui se battent donc dans ce film avec Robert Mitchum. Et donc voilà, je finissais donc avec quel regard portez-vous sur vos collègues formés dans d'autres disciplines. Donc parce que donc quand vous passez par l'université, il y a quand même une socialisation aussi donc disciplinaire qui est implicite. Moi j'ai jamais. Donc, comme j'ai dit au début, je crois que j'ai dit aussi que j'allais revenir à ce point-là. Je suis formé en chimie. Moi, je ne suis jamais posé la question donc de la nature de la chimie en relation avec d'autres disciplines qui sont enseignées donc pendant mon parcours donc d'étudiant. Mais en fait, l'université, le fonctionnement, le choix des cours, donc les choix qu'on a donc à l'université sont et la socialisation avec d'autres. Donc des pairs dont ces formations est quand même très formateur aussi. Donc les dernières diapos, c'est des références, mais je vais... Il y a un article par Pierre Bourdieu sur qui est une manière d'analyser ces disciplines en termes de champs qui est assez intéressant pour ceux qui supportent donc la sociologie. En plus, c'est disponible sur Percé, si vous voulez, vous pouvez télécharger. Mais c'est très intéressant, mais c'est un regard vraiment sociologique dur de ce que c'est une discipline scientifique. Et puis Timothy Lenoir, c'est aussi un livre intéressant, un peu plus récent, mais malheureusement, heureusement, c'est en anglais. Ça dépend si vous aimez bien lire l'anglais. D'accord, moi j'ai fini, merci pour votre attention.